Effectivement, vous le savez, nous allons démarrer l'après-midi avec des exemples très concrets de ce qui se fait ailleurs en matière de soins. Alors c'est l'inverse. De quelle manière on peut faire des soins sans... je vais y arriver. Dans quel ordre ça marche? Sans consentement.
Le moins contraint possible.
Le moins contraint possible. Voilà. Comme ça, on y arrivera dans ce sens-là. Donc pour ce faire, Luce, vous avez invité le docteur Weintraeberg. Vous voulez en dire un mot d'abord ou pas?
Oui, le remercier, bien sûr, président de la COFAL, donc coordination...
Approchez du micro.
Pardon.
Coordination France-Amérique latine de psychiatrie, créée récemment.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, je suis là, donc j'ai été sollicité en tant que président de la COFALP. La coordination France-Amérique latine de psychiatrie a rencontré l'hôpital de Sainte-Anne pour obtenir d'avoir son siège à Sainte-Anne en septembre de cette année. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Madame Legendre. Et elle a obtenu, pour essayer d'animer cette journée, ce débat sur la contention, des points de vue de différents pays. Certains sont en anglais, mais vous avez les traductions. D'autres sont de latino-américains, mais là, ils parlent en français. Donc, je voulais juste dire que j'ai un lien indirect avec l'intervention de M. Marcel ce matin, puisque Ginette Amado, avant d'être à Sainte-Anne, était médecin directeur, à l'époque où ça existait encore, des médecins directeurs, dans l'hôpital où j'ai été chef de pôle pendant 18 ans. Dans le titre de ces journées figure ceci, « Des libertés publiques aux libertés des patients ». C'est un sujet philosophique au sens où il touche à l'éthique des soins. La psychiatrie navigue depuis toujours entre deux écueils. On lui reproche d'enfermer indûment les patients. Et à l'inverse, lorsque malheureusement l'un d'eux commet un acte grave, on lui reproche de l'avoir laissé en liberté. Le comble de la privation de liberté du patient est bien dans la mise sous contention mécanique. Elle est reconnue par tous comme inévitable quand les risques de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif sont majeurs, sous peine de non-assistance à personne en danger. Mais cette pratique inquiète, car elle semble avoir notablement augmenté ces dernières années. Cela a justifié que l'ADES mette au programme de ces journées un échange sur cette question cruciale. Nous avons pu bénéficier, grâce au remarquable travail du docteur Alberto Velasco, psychiatre à Sainte-Anne, que je tiens à remercier en votre nom à tous, mais aussi en raison de l'engagement de cette toute jeune coordination France-Amérique latine de psychiatrie, nous avons pu obtenir que des collègues nous fassent état de la façon de faire avec la contention dans d'autres pays. En les écoutant, vous verrez que, suivant les pays, la pratique de la contention varie de 1 à 10, 2,4% en Italie, 25% en Israël, qu'elle est plus ou moins encadrée par les législations en vigueur, qu'un consensus général se dégage pour essayer de la prévenir et d'en limiter l'usage autant que faire se peut, enfin qu'elle appelle un investissement soignant supplémentaire à celui de la pratique courante dans les soins qui suivent la mise sous contention, mais aussi dans la formation des soignants. Je ne sais si vous aurez le même plaisir que moi à entendre que les soins de proximité et les liens thérapeutiques construits au long cours sont la meilleure prévention, soit ce qu'on appelle chez nous la politique de secteur, qui reste un modèle enviable à l'écoute de nos collègues étrangers.
Nous allons donc regarder maintenant les exemples de trois pays, Israël, la Grande-Bretagne et l'Italie, à l'issue de ces projections. Quelques questions, si vous le souhaitez, quelques échanges. Et puis ensuite, on vous proposera le Mexique et l'Argentine avant de partir sur la table ronde, qui nous nourrira nos débats probablement.
Alors, pour rappel, donc, cet entretien est en anglais et vous avez la traduction dans vos pochettes.
I was asked to speak to you about the whole complex situation of mechanical restraint in Israel, as much as in the world. There is a constant debate in I think all the Western world about uses of restrictive measurements when treating the mentally ill, especially in inpatient facilities. This is a complex issue. Some of the countries in Europe use mechanical restraints. Some of the countries in Europe still use isolation. And some of the countries in Europe use de-escalation techniques. It's quite hard to know the best way to treat our patients, and absolutely aggressiveness that is stemming from the situation and the medical state of the patient is a challenge for all of us as clinicians. Very great challenge for all of us in learning how the best possible ways to handle this. And, of course, watching and defending the autonomy of the patient and his honor. In Israel, there has been a very big debate about this, involving the media about the high usage of mechanical restraints. There has been a report that has been formulated by organizations of patients' rights that was indicating that 25% of patients are being mechanically restrained within their acute hospitalizations. This is a very high number, but yet there are countries in Europe that the numbers are resemble the Israeli numbers, such as, to my best knowledge, Germany, and other countries that use very long periods of isolations, as the Netherlands. We are now working within the domain of a public committee to plan a national program in order to analyze this problem and to offer ways to solve this problem. We also began in the Ministry of Health to work towards a solution that would be, of course, increasing the amount of personnel in the hospitals, internalizing and adapting models of care of de-escalation techniques, which is not only one technique, it's about 16, maybe even 20 different ways to de-escalate patients, you know, verbal de-escalation, non-verbal de-escalation. We will be also trying to work to defeat the boredom, the problem of patients being very bored in inpatient care. We have an average of 31 days of hospitalization. This is a month to be in a mental care center, and so we're going to insert courses and leisure time activities for the patients for the afternoons and for the evenings. We will also be investing in developing and upgrading the infrastructures of the system, and we are constantly looking for ways to think about how to ameliorate and how to reduce the aggressiveness of patients, so we would not have to use those endpoints, the endpoint practices of mechanical restraints. But the experience of other countries, because Israel is quite young in handling this problem, is actually that it's a very complex issue. And every few years there is a rise in public criticism towards systems that are being used in among psychiatrists and mental health workers. I think this criticism is very healthy for all of us, because we must always remember why we are here, and we are here for the patients, and we still have tremendous power over the patients, and it's not a symmetric relationship between doctors, physicians, and the patients, especially the mentally ill. And I think this criticism will enable all of us to become even better clinicians and to work for the benefits of our patients. So I wish you good luck in this conference and to do only good. Thank you.
Merci, madame. Donc, L'Israël, pour commencer. Vous avez trouvé vos petits papiers de traduction, c'est bon ? Bon, ça va. Quand c'est une Israélienne qui parle, on comprend l'anglais. Ça va peut-être être un peu plus difficile avec...
C'est un peu plus compliqué avec Albert Perso.
La personne suivante qui, justement, nous parle de l'Angleterre.
Voilà. Et donc, le film n'est pas de bonne facture, hein, comme je vous l'ai dit.
Hello, my name is Albert Persaud. I'm from the United Kingdom. I'm doing a short video for Alberto regarding the use of restraint. It's always good that politicians and policymakers understand restraint in the context of psychiatry. And in that understanding, you need to have restraint, control, and clinical management built in to policymaking. Therefore, mental health policy must include restraint. In the United Kingdom, it took a long time to get restraint into policy. It was politically sensitive because quite a few patients died in seclusion while being restrained. Another issue is that restraint is used by the police and other parts of the state, and people have died in that as well. So in terms of getting political understanding and political awareness of restraint, it is always good to get policymakers and politicians to understand that restraint is sometimes required in psychiatric practice and therefore should be part of policy. When someone is restrained, it is important that within the first few minutes there's a proper physical examination done alongside a psychiatric examination. Because in restraint, as I said earlier, people die. So therefore, physical examination is important to check the physiology, you know, the heart, the breathing, you know, respiration, blood circulation, make sure that the extremities are not restricted. The technique you use for restraint sometimes needs to be evidence-based, and there is lots of good evidence about that. De-escalation is always the best policy, but sometimes if you have to use it, it must be less restrictive, it must be done in a calm manner, and it must also, you must also be aware that it must never be face down, because if a person is face down, they then develop difficulty in breathing and they can die. That is something we address in this country. With any forms of restraint, you need to have policies and procedures. It must be regularly audited. You must have standards to which you work. And somebody at board level within the hospital or the institution must be the named person responsible for monitoring it. It's important that staff has training on the use of restraint, both nurses and doctors, because sometimes you have to use medication in restraint. So therefore, it is important that they are seen by the senior most medical nursing person and the monitoring is done. One important fact is that recording of the incident and what is being done must be done meticulously by a senior person. It must be recorded and monitored at regular intervals. Your third question, what do you think of psychiatric practice evolution in any way to be to physical restraint? I think psychiatric practice is changing, because with good services that prevent people, patients getting into a crisis and beginning to break down and thus requiring large doses of medication, being sectioned, being admitted in the hospital and thus sometimes being restrained. So if you have good community-based services, home treatment services, assertive outreach services, good community mental health teams, so you can monitor patients and monitor the pathway of the career of their illness, then you can reduce and restrict a lot of the problems associated with restraint. It's always a difficult time when someone's restrained, both for the patient, the family, and for those staff members who have to deal with it. So good psychiatric practice, good research, the good use of evidence, importantly, having good contact with the patients and make sure that the treatment plan is relevant to the needs of the patients. I'm happy to say more at a later date, but my 5 minutes is up. My background is psychiatry, public health and law. I was appointed by Parliament for 10 years to monitor the treatment and care of detained patients. I do know a lot about acute psychiatry, and for 40 years I've worked in psychiatry. I'm now retired, so I'm willing to help you, Alberta. I think it's a wonderful step you're taking, and if I could be of any further help, please don't hesitate to contact me. Thank you very much, and good luck to all you folks in France. Take care. Bye.
Oui, oui, vous pouvez applaudir sans problème. Ce témoignage de Grande-Bretagne, et maintenant, on écoute l'italien.
Voilà, donc c'est Diana De Ronchi, donc, qui est professeure à Bologne et que nous avons rencontrée lors de notre voyage d'études il y a un peu plus d'un mois. Et Diana De Ronchi est responsable d'une unité de soins intensifs de 15 lits pour 800 000 habitants. Et la durée de séjour de son unité est de 7 jours.
Do you use any kind of physical restraint in your institution and in Italy? For how long? What are the medical items you think have to be surveilled?
You must know, I think that you know, that in Italy Franco Basaglia did a real revolution concerning the protection of psychiatric patients. Psychiatric asylum were closed, and the new hospitals were adopted to treat psychiatric patients. In order to answer to your question, if we will use a physical restraint, we always try every day, every hour, to avoid the physical restraint. This is one of our aims for our work. This is for the reason of respect of our patient, respect for their diseases, and because we think that physical restraint is not a therapeutic approach. Unfortunately, there are very few cases, I must say, most related to drug abuse, to psychotropic drug abuse, as cocaine or opioids. And in this very few cases, sometimes, very rare, we are obliged, I can say, to use physical restraint. Physical restraint must be very short in time, only the time that you need to be our drugs effective. This is the most important point. The other point is for how long. We monitor in extremely, detailed case, every physical restraint, and they must be short in time. And nurses and medical doctors, senior medical doctors, are obliged to see the patients every 10 minutes or half an hour. The reason is that we must know that a patient in physical restraint needs more care than other patients. And it's not a way to avoid, take care of him. It's the opposite, it's really the opposite. So this is another thing that helps to avoid physical restraint. And in the very few cases, I can say we have 1,000 of patients a year, and we have 2 physical restraints every month. This is the medium that we have.
What are the alternatives do you use in case of, for instance, a psychotic agitation that you're unable to be calmed down quickly?
So we have, a behavioral approach. There are a lot of guidelines in the world that we all know that teach you how to avoid aggressiveness from your patients. And the way that you show that you are calm and that there is no problem, that you do not have fear about the patients that are in front of you. This, I think, is very important. The patient must understand that you don't have fear about him. So, and obviously you have, antipsychotics and other way to get the aggressiveness in a low manner.
You said fear. Yes.
Yeah.
This could be a case with some patients. What? How do you deal with this case?
How can I say? To be honest, I think that once a year, twice a year, I really have fear from one patient. I think we are also, it's also important that perhaps I am a woman. I see that sometimes patients are more gentlemen than the usually men, the common men of the road, I can say, because patients are, can I say, are aware that you are a woman and they respect you. It happens so many times in my career that, for example, if there was an aggressiveness against a medical doctor male, I put among them. Because I always believe that a male patient with schizophrenia is aware that I am a woman and respect me. And this always happens in my life.
Thank you very much. And we'll have the pleasure sometime to receive you in Saint-Anne in Paris.
I thank you all, and I think that this type of work is very important for all of us and for our patients and for the families of our patients. So thank you very much.
Thank you very much.
Voilà, troisième témoignage. On a dit qu'on faisait une petite pause là pour vous laisser le temps de poser quelques questions si vous le souhaitez ou d'apporter vos témoignages à ce que vous avez entendu ou lu. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce que vous avez sur ces trois témoignages, madame? Premier rang, troisième rang. Il faut appuyer sur le petit bouton peut-être. Je ne sais pas s'il est... Est-ce qu'il est vert? On va vous donner un autre micro. Il n'est pas vert.
Vous m'entendez?
Là, c'est bon.
Oui. Donc, ce que je voulais remarquer, c'est qu'on est quand même... On est en train d'aller vers un consensus qui est que je n'ai entendu personne disant que l'on ne peut jamais... Qu'on ne, doit jamais faire de contention, mais qu'on doit en faire le moins possible. On a entendu aussi beaucoup le fait qu'il fallait des actions de prévention, qu'il fallait bien connaître aussi les traitements médicamenteux apaisant l'anxiété et l'agitation, et qu'à partir de là, et qu'il fallait avoir des techniques relationnelles et des techniques institutionnelles. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de revoir un consensus qui pourrait être très largement partagé concernant les bonnes pratiques. Mais moi, ce qui me paraît quand même important, c'est que chacun a dit qu'il fallait pouvoir garder des techniques de très, très grande complexité quand l'état du patient le nécessitait, et qu'à ce moment-là, il fallait pouvoir les appliquer avec une très grande vigilance, qu'on était un peu dans des techniques de soins intensifs. Ce mot a été repris ce matin. Voilà, donc je crois que c'est intéressant de bien repréciser comme ça les choses.
Merci. Monsieur, à droite, un peu plus haut.
Merci. Philippe Pichon, médecin généraliste. Je trouve très éclairant les points d'entrée. Le collègue anglais trouve une limite à la contention pour des raisons de mise en péril de la vie des patients. La question éthique est en arrière. La question de la liberté, de tout ce qu'on a discuté ce matin, n'est pas en avant. Et ce matin, on a parlé essentiellement des questions de liberté de la personne, ce qui est absolument fondamental, mais la question globale du patient, c'est-à-dire la prise de risque en termes de santé physique, n'a pas été abordée. Je trouve que la réponse des deux remet en question la globalité de la personne à soigner, donc pas prendre de risque sur le plan éthique, de ce que ça peut impliquer dans la suite de ce parcours de patient au long de sa vie, mais aussi en termes psychologiques, éthique, mais aussi sur le plan de la santé physique. Les deux se répondent bien, je trouve ça très éclairant.
Monsieur, au milieu.
Le témoignage de Grande-Bretagne nous rappelle, Vincent Thomas, directeur du PSM de la Sarthe, le témoignage anglais nous rappelle, on ne doit pas l'oublier, que les pratiques de contention physique sont aussi celles des forces de l'ordre, et j'ajoute également celles des soignants ou des personnels de maisons de retraite. attacher une personne âgée au fauteuil ou la fixer dans son lit pour la nuit par une ceinture ventrale sont des pratiques extrêmement courantes et qui ne font pas l'objet, enfin qui ne sont pas concernées par l'article 72 de la loi du 26 janvier. Et pourtant, dans des conditions mises en œuvre dans des conditions dans lesquelles les professionnels qui les réalisent sont beaucoup, beaucoup moins conscients des enjeux alors, éthiques, mais aussi de sécurité physique des patients ou des personnes, en l'occurrence, quand ce n'est pas un patient, mais un détenu ou quelqu'un qui est juste arrêté, ou pour une personne âgée qui n'est pas patiente non plus, mais qui est juste résidente du fait de son âge dans un établissement. Le débat mérite, à mon avis, d'être étendu. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le lieu aujourd'hui ni le moment. Mais je veux juste dire qu'il est bien que le monde de la psychiatrie se questionne et que ce questionnement sorte de notre champ pour interroger toute la société.
Voilà. Après, les collectivités que l'ADESME doit former, elle doit aller aussi vers le médico-social et puis la police. Très bien. Oui.
C'est un problème de sûreté. Donc après, la société débat s'ils doivent utiliser tel et tel moyen. Je crois qu'il ne faut pas mélanger psychiatrie, santé mentale et police. Ça serait une grosse erreur. Et on a débattu ce matin. Alors après, le médico-social, peut-être qu'on peut faire profiter de nos bonnes pratiques, pardon, nos collègues du médico-social. Oui, là, d'accord. Mais...
Certains disent que c'est déjà fait, en partie en tout cas. Bien, monsieur. Et puis on va enchaîner avec les films d'Amérique latine ensuite.
Oui, bonjour, merci. William Durocher, directeur adjoint à Ville-Évrard. Peut-être à ce stade de la discussion, faire un double parallèle. Le premier, c'est entre deux médecines. On parle de psychiatrie beaucoup. Je parlerai de chirurgie. Là, le chirurgien, lorsqu'il donne son coup de scalpel, d'un point de vue pénal, ça s'appelle coup et blessure volontaire, sauf qu'on l'exclut de ce champ-là en raison de l'intention thérapeutique, évidemment. Donc voilà, un petit parallèle entre la médecine somatique et la médecine psychiatrique. Et puis le deuxième parallèle dans le prolongement de ça, c'est entre deux mots, parce que la discussion que nous avons depuis hier sur la contention, sur les libertés, c'est deux mots qui parlent de morale d'un côté et d'éthique de l'autre. Donc si on se place sur le plan de l'éthique, voilà, qui permettrait de résoudre certaines de nos interrogations.
Merci. Alors, on ne va pas passer deux films, mais un seul, tout de suite, pour des raisons pratiques. Et puis ensuite, ce sera l'heure de encore quelques questions, la table ronde, et on reviendra avec l'autre film plus tard. Donc, on découvre le témoignage de votre collègue au Mexique.
Docteur Wilson, nous avons que la pratique de la contention physique, l'isolement, n'est pas la même entre les différents services d'un même établissement. Et nous voudrons avoir votre avis sur cette question, bien sûr. Est-ce qu'on pensait que cela peut s'expliquer uniquement en raison des différences, l'état clinique du patient que présente dans les différents services, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte selon vous?
D'abord, bonjour et merci à l'ADESME, à Dr Velasco pour nous inviter. Il n'y a pas de loi qui règle la contention ici au Mexique et ça ne dépend pas tellement du service ou de chaque hôpital, mais plutôt de l'expérience personnelle des collègues. On peut dire que oui, il y a un consensus à peu près qui réserve la contention physique pour les cas où le patient se trouve très agité ou qui sont dangereux, violents envers eux-mêmes ou envers quelqu'un de sa famille ou même quelqu'un de l'équipe soignante. On essaie, dans tous les cas, d'utiliser la contention quelques minutes, des heures au plus, rarement plus d'un jour. Et on essaie tout le temps de voir d'autres moyens de contention, comme des interventions psychothérapeutiques, l'intervention en CRISP par exemple, et aussi des moyens chimiques, non, des médicaments.
D'accord. Alors, vous dites qu'il y a une différence différence entre le service public et le service privé, est-ce que cela peut être dû aussi aux différentes pathologies que vous recevez dans le privé et dans le public, par exemple?
Bon, ça c'est très intéressant parce que, oui, les cas les plus sévères, en parlant d'agitation par exemple, se trouvent plutôt dans les services publics et pas dans les privés. Je ne saurais pas très bien dire pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est plutôt rare de voir des patients très agités dans des hôpitaux privés.
Oui, d'accord. Donc ça veut dire que peut-être vous avez différentes pathologies dans ce cas précis. Mais est-ce que vous pensez aussi que, par exemple, les patients qui viennent du service privé, vous avez la possibilité de les suivre en dehors des crises et de créer une alliance thérapeutique, un suivi de qualité, la proximité peut-être du service avec le lieu de vie du patient peut jouer un rôle. Est-ce que pour vous, l'alliance thérapeutique peut-elle jouer aussi un rôle dans ce qui est la différence entre les services qui utilisent l'isolement et la contention physique?
Oui, tout à fait. C'est vrai ce que vous dites. Dans un milieu privé, on peut suivre le patient et avoir une relation thérapeutique. Mais parfois, dans les hôpitaux publics, on ne connaît pas le patient à qui on s'adresse. C'est la première fois qu'on le voit. Un patient complètement agité, peut-être même violent envers nous. Donc, la relation thérapeutique, c'est quelque chose qu'il faut commencer après avoir reçu un patient dans un état comme je l'ai décrit. Donc, c'est difficile parfois de penser avoir une relation avec ces patients parce qu'après, ils viennent pas forcément de la ville, mais d'autres villes plus petites aux alentours de Guadalajara. Donc, c'est très difficile de les suivre et avoir des entretiens de temps en temps avec eux.
Comment créer une alliance thérapeutique avec quelqu'un qui est en crise? Est-ce que c'est possible? Et si oui, quels sont les points les plus spécifiques, les plus importants que vous pensez qui peuvent être mis en valeur là, dans ce moment-là?
Oui. D'abord, je pense que c'est, en effet, c'est très difficile de faire une alliance thérapeutique comme ça, mais je pense que si le patient a l'impression ou l'expérience d'avoir été aidé, c'est un bon commencement pour une relation.
D'accord.
En ce sens-là, c'est très important que l'équipe soit sensible et disponible pour vraiment aider les patients en crise, surtout quand on ne les connaît pas. C'est pas très facile, mais il faut le faire parce qu'il nous arrive tout le temps.
Merci beaucoup à vous et au docteur Passoua et à très bientôt.
À bientôt, merci docteur.
Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va en fait passer le deuxième film tout de suite. Le docteur Velasco, dont il était question, c'est Alberto Velasco, qui est praticien à côté, je crois, hein, psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne. Donc on va découvrir l'Argentine maintenant.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'on utilise la contention en Argentine?
Oui, on l'utilise. Quand même, l'histoire récente de l'Argentine, la dictature des années 70, que c'est une histoire de torture, de centres de détention, certains dans des hôpitaux psychiatriques et des privations de liberté, ça a laissé une trace indélébile et traumatique dans la société. Donc, pour les professionnels de santé mentale, parler de privation de la liberté ou de contention, ça peut évoquer cette sinistre période. De toute façon, on l'utilise. Et je sais qu'ici en France, on n'a pas besoin d'ajouter l'adjectif mécanique, on parle de contention, mais en Argentine, c'est pas comme ça. on doit spécifier, on doit ajouter cet adjectif, donc on parle de contention physique ou mécanique. Et je crois que c'est important à dire que là-bas, on a trois types de contention. La contention verbale, après si ça ne marche pas, la contention pharmacologique et la contention physique comme dernier recours thérapeutique. C'est aussi important à souligner que les psychologues peuvent l'indiquer, toute la vigilance médicale, mais pas l'indication. Donc, il y a dans la communauté psy, comme on l'appelle là-bas, comme un espèce de protocole interne, et on commence par pratiquer la contention verbale. Même dans les dossiers, on l'écrit comme ça. Nous écrivons contention verbale qui est avec réponse positive ou non, ça dépend du cas. Et si ça ne marche pas, on continue avec la contention pharmacologique. Si quand même ça ne marche pas, parce que le patient est très compliqué, et on continue finalement, et pas toujours, avec la contention mécanique ou physique. Et je crois que c'est quand même, on ne doit pas oublier que la parole, c'est un premier essai d'établir un lien non mortifère avec ce patient qui est en souffrance psychique.
On peut imaginer que ce n'est pas qu'un protocole, que c'est aussi la manière dont la psychanalyse investit la psychiatrie et continue à nourrir d'une pensée, essayant de faire quelque chose avec le sujet qui est lui devant le soignant et avec beaucoup de difficultés à se contenir lui-même. Mais l'idée qu'il y ait une contention verbale, pharmacologique et mécanique me semble très riche. Mais est-ce que c'est comme ça que c'est marqué dans la loi? Qu'est-ce que dit la loi sur la question? Ou est-ce que c'est un arrangement des cliniciens, des praticiens?
Bon, dans la loi nationale de santé mentale, c'était la première loi en 2010, il n'y a pas de mention précise à propos de sur la contention mécanique. Elle est une loi surtout des hospitalisations. C'est surtout question des hospitalisations. Et là-bas, oui, on le considère selon l'angle de la restriction de liberté. De toute façon, l'hospitalisation, on le considère comme une première contention. Et bon, si ça échoue, c'était comme je disais avant, tous les autres types de contention. Je crois qu'on ne doit pas oublier la singularité du cas, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à un sujet à un moment donné. Et même aussi, c'est l'hospitalisation comme un dernier recours, tel que la loi le propose, c'est important de ne pas oublier l'urgence subjective. Depuis la psychanalyse, la contention mécanique, on peut aussi la considérer comme une façon de faire un corps, de construire un corps qui est en train dans un moment aigu de morcellement de sévère, n'est-ce pas? Et donc aussi, on ne doit pas oublier que c'est nécessaire d'arrêter ce corps qui est en train de se toucher ou se relationner avec la mort. Mort, mais sa mort ou des autres. Et donc je crois aussi que c'est important pour tous les professionnels de la santé mentale. Et bon, et comme la psychanalyse nous l'apprend, de ne pas oublier la singularité du sujet, et que c'est une indication que, essentielle pour notre pratique quotidienne, et c'est un défi pour les professionnels de chaque jour.
Bien, voilà pour ces deux exemples d'Amérique latine. Docteur Wintrenberg, est-ce qu'il y a une spécificité en Amérique latine autour du traitement
la psychiatrie par rapport à l'Europe, par exemple.
Déjà, il faut préciser une chose pour que les gens comprennent. Les psychologues en Argentine font un internat de psychologie, comme il y a un internat de psychiatrie pour les médecins. Donc, ils sont avec des postes dans les hôpitaux qui leur donnent une certaine pratique vraiment au contact des patients. Et je pense que c'est à partir de cette idée de l'internat de psychologie qu'il y a eu une autorisation ouverte aux psychologues, très critiquée par les psychiatres d'ailleurs en Argentine, parce que la responsabilité reste médicale. Mais il y a eu une ouverture pour que les psychologues puissent indiquer une mise sous contention mécanique. Alors, je trouve ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est que pour la première fois, quelqu'un aborde la contention avec l'idée que ce serait susceptible d'avoir des effets thérapeutiques. Personne d'autre n'a abordé ça comme ça. Et là, au fond, à partir de l'exemple qui serait soit celui du morcellement dans la schizophrénie avec un corps qui s'en va dans tous les sens, le fait que la contention puisse rassembler quelqu'un et lui redonner un corps qui est en train de fiche le camp, ou dans les cas de mort subjective qu'on peut trouver dans des cas de mélancolie très grave, l'idée que ça puisse avoir aussi un effet et que ça permette de sortir de la dimension du passage à l'acte suicidaire, c'est une dimension très neuve par rapport au témoignage qu'on a écouté jusque-là. Donc je voulais juste dire ce point. Je voulais dire aussi que dans les différents témoignages que vous avez pu entendre, il y a des choses extrêmement différentes. Moi, je suis très étonné par le témoignage du docteur Perso du Royaume-Uni. On pratique la contention dans mon hôpital depuis des années et des années. Il n'y a jamais eu un décès sous contention. Que puisse envisager des décès comme quelque chose au quotidien auquel il faut parer m'a absolument surpris. Par ailleurs, je suis fasciné, et ça reste pour moi une énigme, pourquoi 25% des patients israéliens sont mis sous contention. Parce que c'est quand même une pratique très exceptionnelle. On essaye de la réserver le plus possible à des cas pour lesquels on n'a pas, vraiment pas d'autre solution. Et effectivement, le point commun de toutes ces interventions, c'est l'idée qu'il y a un savoir-faire soignant qui s'est peut-être un peu perdu avec le mise dans le pool commun des études de psychiatres et d'infirmiers psychiatriques, la déspécification de ce métier, qui est quand même un métier très particulier, cette déspécification a vraisemblablement joué un rôle sur les savoir-faire. Et il y a là un travail absolument énorme à mettre en place, qui est au fond qu'il faut apprendre aux soignants à se défaire des phénomènes de miroir avec le patient ou des phénomènes de fascination, à pouvoir le considérer, quelle que soit son angoisse, comme un sujet normal et qui est dans une mauvaise passe. Et c'est comme ça qu'on défait ces nécessités de contention. C'est dans une relation humaine. Mais vous voyez bien que même cette femme italienne, quand elle parle de ça, et qu'elle dit « Heureusement, les patients respectent davantage les femmes », effectivement, souvent les patients sont dans une relation de défi avec tout ce qui représente l'autorité paternelle. Et donc le médecin est là, à cette place, et peut-être que la femme est moins exposée à cette violence-là. Mais il me semble que quand même, elle disait qu'elle avait de temps en temps peur des patients. C'est très compliqué de ne pas avoir peur des patients. Il faut vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire. Et ça s'apprend, entre guillemets, au lit du malade, hein, justement dans le traitement de ces épisodes de crise. Voilà.
Vous avez réagi aussi au moment où le Mexicain parlait de la différence entre le service public et le service privé.
Oui, parce que je ne connais pas bien le Mexique. Je connais assez bien l'Amérique latine, mais pas le Mexique. Mais ce qu'il raconte, c'est très précis. Il dit, voilà, on nous amène des patients dans un état catastrophique pour les amener depuis le village qui a 50 ou 100 bornes dans la Cambrousse du Mexique jusque là, à la capitale de l'État. eh bien, il a fallu vraiment des circonstances qui obligent ça. Donc, c'est des états vraiment qui extrêmement alarmants. Et ils ne connaissent pas les patients, ils ne vont pas pouvoir les suivre. Quand même, quand on a un patient pour lequel on est... Moi, j'ai été remercié par un patient de l'avoir mis sous contention. Quand on sait faire ça et qu'on construit des liens, c'est ça la politique de secteur, c'est construire des liens avec les patients. Après, c'est ce que nous disait le docteur Marcel ce matin. Après, eh bien, les patients nous connaissent. Et le simple fait d'avoir affaire à des soignants avec lesquels on a déjà eu des aventures de vie, il y a un effet de contention qui s'effectue.
D'ailleurs, c'est ce que dit la personne en Argentine, qui dit avec la première loi de 2010, on avait le sentiment que la première contention considérée, c'était celle de l'hospitalisation, tout simplement.